La période de Ben Hametzarim. Chers amis, Hashem Alechem Tihyu, Leorech Yemim Tovim Shanim Naimim. Ezrenu Beshem Adonai, Osei Shamaim Vaaretz. Nous sommes entrés dans la période de Ben Hametzarim, la période entre les deux oppressions. D'une part, Yud Zayin Betamuz, qui est une extrémité, et l'autre, qui est Tisha B'Av. Et ces deux barrières, ces deux extrémités se resserrent pour faire une oppression sur Am Israël. Donc nous avons commencé la période de deuil sur le Beth Amikdash. En 2489, c'est le début de la conquête d'Eret Israël par Yehoshua. Celle-ci dure 14 ans, 7 ans de conquête et 7 ans de partage. En 2928, débute la construction du premier temple par Shlomo HaMelech. Celui-ci est inauguré en 2935 et en 2964, c'est le schisme des deux royaumes. En effet, c'est alors que Ahia HaShiloni va prédire à Jéroboam ben Nevat que le royaume de Shlomo va être scindé et que lui va régner sur 10 tribus. C'est le schisme. Le royaume d'Israël se sépare du royaume de Yehuda. En 3205, c'est l'exil des 10 tribus. En effet, Sanhérif, Melech Ashur, monte en Eretz Israël et exile les 10 tribus. Nous sommes 133 ans avant la destruction du premier temple. En 3320, commence la domination de Babylone. Nebuchadnezzar pille le temple et emporte toutes les richesses de celui-ci à Babel et en plus, il exile les élites de Am Israël, en particulier Mishaël, Hanania, Azaria et Daniel sont exilés et cela après 6 ans de persécution. 3327, Nebuchadnezzar nomme Tzidkiyahu HaMelech comme dernier roi de Judée. Il le met roi à la place de son prédécesseur qui s'était rebellé. En 3336, Tzidkiyahu se rebelle contre Nabucodonosor et là débute le siège de Jérusalem, le dit Tevet. C'est le début de la catastrophe. Ce siège va durer 3 ans environ. Et en 3338, le 9 Tammuz, une brèche est faite dans la muraille. Et le 17 Tammuz, c'est l'interruption du Tamid Shel Shachar. En effet, les Kohanim n'avaient plus de sacrifices d'animaux pour sacrifier. Quelques jours, ils ont payé des caisses d'or pour que les ennemis leur fournissent des bêtes. Et là, les ennemis ne leur fournissent plus les bêtes. Le Midrash dit qu'ils leur ont monté un hazir. Et là, le hazir a planté ses mains sur la muraille du Beth Amikdash. Et la terre a tremblé sur toute sa longueur et sur toute sa largeur. Et le 9 Av, c'est la destruction du premier temple. En effet, le 7, le 8 et le 9, les ennemis pénètrent dans le temple et font ce que bon leur semble dans ce temple et ils mettent le feu à la fin de la journée du 9 Av et le temple va brûler le 9 et le 10. Ça, c'est pour le premier temple. Le deuxième temple. Le deuxième temple commence sa construction en 3408, nous sommes juste après la fête de Pourim, les événements racontés dans la Megillah. Darius, le fils de Esther, ordonne la construction du deuxième temple. En 3412, c'est la fin de cette construction. Néhémiah, Ezra le scribe et tous les membres de la grande assemblée, Anshe Knesset Agedola, montent et s'installent à Jérusalem. 3448, c'est la fameuse rencontre entre Shimon HaTzadik, Simon le Juste, et Alexandre le Grand. Cette année marque la fin de la prophétie. En effet, le dernier prophète quitte ce monde. Cette prophétie aura duré 1000 ans. Depuis le premier dévoilement et la première prophétie que HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu sur le Har-Sinaï. 3593, c'est le miracle de Purim. Le miracle de Hanouka, pardon. 3622, c'est le début de la dynastie des Hashmonaïm. 3697, c'est la domination romaine. Et 3724, c'est le début de la royauté de Hérode. 3824, c'est la révolte des Zélotes, c'est la première révolte. Elle va durer 3 ans. En 3828, destruction du deuxième temple. Le temple a été détruit en 69 de l'ère vulgaire. En 73 de l'ère vulgaire, c'est la chute de Masada. En 75 de l'ère vulgaire, c'est le début de la rédaction des fondements de la Mishnah et des textes de la prière. En 76, c'est la mort des élèves de Rabbi Akiva. En 117, c'est la première révolte de Bar Korba. De 120 à 133, c'est la deuxième révolte de Bar Korba, le siège de Beta et la destruction de la ville avec toutes les catastrophes qui sont mentionnées dans les textes. En 135, c'est la mort de Rabbi Akiva et des 10 sages qui sont les 10 martyrs mentionnés dans les Lamentations. En 195, la compilation de la Mishnah. La destruction du deuxième temple et l'exil d'Israël parmi les nations donc se sont produits en l'an 3828 de la création du monde, le 9 du mois de Av. Jour marqué par des événements tragiques, fixés déjà lors du retour des explorateurs. En ce jour, ils ont pleuré, et le texte dit « Vous avez pleuré pour rien, je vous ferai pleurer pour une bonne raison ». Cet exil aurait dû durer 1000 ans. Comme dit le verset des Lamentations, « Il m'a ramené en arrière, il m'a rendu désolé tout le jour souffrante. »« Ishivani ahor, kolayom dava, kolayom, un jour de souffrance. » Le jour devant Hachem est un jour de 1000 ans, comme il est dit dans le psaume, qui élève Shanim Be'anecha, car 1000 ans sont à tes yeux, Keyom et mort qui a avant, comme une journée d'hier qui passe. La Sphira de Hod correspond, Hod qui est la splendeur, elle correspond au 5e millénaire. Cette Sphira est la 5e de celles qui composent l'espace et le temps. En effet, les 7 jours de la création sont en parallèle avec les Sphirotes. Le mot souffrante, dava, apparaissant dans le verset de Echa, fait référence à cette sphira, car le mot dava, ce sont les mêmes lettres qui composent le mot hod. De telle sorte que, en vérité, la destruction du deuxième temple aurait dû se produire, non pas en 3828, mais en 4000. Et elle a été avancée de 172 ans, pour permettre à Israël de se perpétuer. En effet, HaKadosh Baruch Hu a jeté sa colère sur les bois et sur les pierres du temple afin de permettre à Israël de rester en vie. Comme cela est rapporté dans les textes de nos maîtres, c'est que il est dit, Mizmor les David, Baou Goïm Benahalatecha. Mizmor, louange. Les Goïm sont venus dans ta demeure et l'ont détruite. Alors le Midrash dit, pourquoi on dit Mizmor? En quoi cela est-ce une louange? Il aurait dû dire, malheur à nous, les Goïm ont détruit le temple. Cependant, les massacres étaient de telle envergure, tellement terribles, qu'ils se sont dit que si cela continuait et que le temple restait sur pied, il ne restait, chas v'shalom, l'osarit v'lopalit d'Am Israël. Il ne resterait rien d'Am Israël. Et c'est alors qu'ils ont élevé la louange lorsque ils ont vu que le temple a été détruit. Donc la colère d'Hachem s'est abattue sur les pierres et a permis à Israël de subsister. Il est dit au sujet du premier temple, dans la parashat Va'etchanan, celle d'ailleurs que nous lisons le jour de Tisha B'Av, Kitolit banim oblemanim. Quand tu auras des enfants et des petits-enfants, venoshantem ba'aretz, vous vieillirez sur la terre, vous vous installerez sur la terre. Rashi rapporte l'enseignement de nos maîtres qui dit que le verbe vieillirez, installer, venoshantem, a une valeur numérique de 852. Ce chiffre constitue une allusion à l'exil de Babylone. Or, depuis l'installation d'Israël sur sa terre jusqu'à la destruction du premier temple, ne vont s'écouler que 850 ans. La conquête débutant en 2488 et en 3338, destruction du premier temple, qui a duré 410 ans. Cet exil a été donc avancé de 2 ans. Afin que ne s'appliquent pas les versets, ils seront exterminés. C'est le sens de la vision de Jérémie. Nous allons lire, Shabbat prochain, le premier chapitre de Jérémie, dans lequel il est dit, « Mataroé, Irmiyahu, que vois-tu, Irmiya ?» Et Irmiya répond à Hachem, « Makel shaked aniroé, je vois un rameau de l'arbre hâtif, de l'amandier. » Et Hachem lui répond, Et taftalirot, tu as bien vu, qui choqued ani al devari la asoto, car je m'empresse d'accomplir, je me hâte d'accomplir ma parole. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, en montrant cette vision à Yirmiya, il lui montre que la colère va s'abattre sur, il va avancer le temps de la destruction de telle sorte qu'il reste quelques âmes Israël. Âme Israël va pouvoir se perpétuer malgré la destruction. Et c'est la même notion qui est mentionnée dans le second temple. 172 ans correspond au Ekev. Ekev, c'est le talon que Yaakov saisit de Esav. Ce talon-là va permettre à Yaakov, ce qu'il prend de Esav, il lui donne en fait la possibilité de détruire le temple avant, pour pouvoir lui-même se perpétuer après la destruction du temple et dans cet exil qui est long et pénible. Le jour de Yud-Zayin Bet-Tammuz, 5 choses malheureuses se sont produites. En effet, ce jour-là, qui aurait dû être le jour le plus grand de la joie et du bonheur pour Israël, c'est le jour du don où Moshe Rabbeinu aurait dû descendre les premières tables, ils font le veau d'or et Moshe brise les tables. C'est ce jour-là que, lors du premier temple, le sacrifice quotidien du Tamid, c'est ça. Et nos maîtres disent que s'il n'y a pas de sacrifice, comment peut-on expier nos fautes? C'est là où il y eut une brèche dans les murailles à l'époque du deuxième temple. C'est là où Apostromus, Aracha, a brûlé la Torah. Et c'est en ce jour où une idole fut dressée dans le sanctuaire. Il y a une discussion au sujet de savoir qui a placé cette idole dans le temple, mais le fait d'avoir placé cette idole dans le temple montre la dégradation terrible que subit Am Israël. Donc, nous sommes dans cette période de deuil et nous devons véritablement saisir la dimension de ce que nous appelons la destruction du temple, que ce soit le premier ou que ce soit le deuxième temple, qu'est-ce que nous avons perdu dans cette destruction? Alors, essentiellement, nous devons comprendre que ce que nous avons perdu, c'est la souveraineté d'Israël, le fait que nous soyons une nation. Et quand le temple est détruit, la nation juive disparaît et nous devenons de simples individus. Nous sommes des individus éparpillés aux quatre coins de la terre, conséquence directe ou indirecte de la destruction du temple, et nous vivons chacun pour soi. Comment réparer cette notion de souveraineté? Comment rétablir un semblant de nation juive? C'est ce que Rabban Yohanan ben Zakkai a demandé à Vespasien lorsqu'il quitte Jérusalem. Et Vespasien lui demande, tu peux faire une demande, je te l'accorderai. Et Rabban Yohanan ben Zakkai demande, Yavne vechachamea. Il a demandé que les sages de la Torah puissent être préservés et s'installer à Yavne dans la tranquillité. Et c'est cette notion que de rassemblement autour des sages qui va nous permettre de constituer, là où nous sommes, des communautés qui, en se rassemblant autour des maîtres, reforment un semblant de nation juive. Une nation juive à un niveau réduit. Et ça, c'est fondamental pour que nous puissions passer le tunnel terrible des ténèbres de Galout. Lorsque nous sortons le Sefer Torah et que nous le plaçons sur la Teva pour en faire la lecture publique, les lundis, jeudi et le Shabbat, en fait, nous reformons la nation juive autour de la lecture de la Torah. Et lorsque, après la lecture, le Rav, le Maître, transmet les enseignements, là aussi, c'est la continuité de la nation juive. La nation juive est rassemblée autour du roi, autour du prophète, autour du maître, autour du temple, là où la Torah rayonne, et nous nous inspirons, nous absorbons ces paroles, les paroles de la Torah écrites, ainsi que celles de la Torah orale transmises par les maîtres. Donc c'est la reconduction de Kabbalat HaTorah, le cérémonial de la formation, la reconduction à un niveau Zeiranpin, au niveau du microcosme de la nation juive. Nous sommes à ce moment-là une petite nation juive. Quelles sont les qualités? Comment pouvons-nous réparer ce qui s'est passé? Comment pouvons-nous agir de sorte que l'exil cesse et prenne fin? Quelles sont les causes de l'exil? Alors il est dit, au sujet de la destruction du premier temple, il est dit que les Bnei Israël ont transgressé les trois fautes capitales. Ils ont versé le sang, ils ont fait l'idolâtrie et ils ont fait des relations interdites. Ils se sont permis tous les excès. Cependant, la destruction du deuxième temple, ce n'est pas ça la raison qui est évoquée. La Gemara demande « Alma avda aretz » sur quoi la terre a été détruite? Quel est le sens profond de cette question? Pourquoi la terre a-t-elle été détruite? Alma avda aretz. Et nous répond la Gemara, al osvam et torati, parce qu'ils ont abandonné, ma Torah. Ils ont abandonné ma Torah. Et juste parce qu'ils ont abandonné ma Torah, alors le temple a été détruit, des millions de personnes ont été massacrées et Israël a été exilé aux quatre coins de la terre. La Gemara demande qu'en fait, ce n'est pas ça la raison, c'est qu'ils n'ont pas fait la bracha, ils n'ont pas fait la bénédiction avant d'étudier la Torah. Pourquoi ce pays est-il détruit, dévasté comme le désert où personne ne passe? C'est Hachem qui l'a dit. C'est parce qu'ils ont abandonné la loi que je leur avais proposée. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes ordres et qu'ils ne les ont pas suivis. Nous dit Chachamim, ils n'ont pas suivi mes ordres, ils ne les ont pas écoutés. N'est-ce pas la même chose? Alors Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, ils n'ont pas fait la bénédiction qui précède l'étude. S'il faut comprendre ce verset, qu'ils ont abandonné l'étude, pourquoi alors cette question est-elle restée sans réponse? Il paraît évident que s'ils n'étudiaient pas, alors on sait pourquoi ils ont été massacrés. Ils n'étudiaient pas et ça donnait à la Torah. Qu'est-ce que ça signifie? Ils ne faisaient pas la bracha avant de faire l'étude. Ils ne donnaient pas à la Torah l'importance qu'elle doit avoir, à tel point qu'ils ne se donnaient même pas la peine de réciter les bénédictions qui précèdent l'étude. Cependant, sur le Shulchan Aruch, sur le Tour, le Bayit Hadash s'étonne de ce châtiment terrible, d'une ampleur colossale, pour une faute relativement mineure. Il répond à cette question par un développement fondamental du sens et de l'importance de l'étude. Il apparaît que la volonté première d'Akadosh Baruch Hu est que nous soyons investis dans l'étude afin que se renforce notre âme de l'énergie puissante et de sa sainteté puisée à la source, à la racine de la Torah. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a offert sa Torah de vérité en legs à Israël pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Notre âme et notre corps doivent se lier et s'unir par notre étude aux 248 mitzvot positives et aux 365 mitzvot négatives afin de former le trône de gloire et la sainte demeure de la résidence de la Shekhinah. De sorte que la présence divine, la Shekhinah, réside alors en nous réellement. La terre devient le lieu tangible de sa résidence. Elle éclaire et rayonne de sainteté. Le monde physique se rattache alors au monde spirituel et à la cour céleste. Le sanctuaire terrestre s'unit au temple céleste. C'est l'unité parfaite entre les mondes, celui d'en haut et celui d'en bas. En négligeant les bénédictions, ces sages ont limité leur étude à une activité matérielle pour les besoins de la vie physique, pour savoir d'une part comment appliquer les lois et les mitzvot dans les différentes activités de ce monde, ou pour montrer leur savoir. Ils n'avaient pas pour intention de faire résider la Shekhinah dans ce bas monde. En faisant cela, ils ont dénaturé la Torah, ils l'ont vidée de son contenu véritable. La conséquence de cette négligence a été que la Shekhinah a quitté ce monde, et Israël a été livré à la fatalité et aux aléas de l'histoire. La destinée d'Israël n'était plus dépendante de la volonté divine et de la sainteté. Son destin et sa fortune sont devenus identiques à celles des nations. Ainsi explique le Bayit Hadash. En conclusion de son développement, nous dit le Rav, le concept même des bénédictions et le désir intense de gravir les degrés, d'amplifier l'énergie spirituelle de sa Neshama, et de se rallier à la quintessence de la Kdusha de la Torah. Ça, c'est le fondamental de l'étude. C'est la raison de la destruction du deuxième temple. Cependant, Chachamim disent qu'il y a une autre raison à cela. La deuxième raison, c'est la Sinat Hinam. C'est la haine gratuite entre les individus, comme cela est raconté sur la fameuse histoire de Kamsa et de Bar Kamsa. L'individualité de chacun, l'indifférence à l'autre, c'est justement cette notion que nous avons perdue lors de la destruction Nous ne sommes plus une nation où les individus sont interconnectés, que l'intérêt de l'un est justement l'intérêt de l'autre, que nous avons tous une destinée identique et que nous avons besoin les uns des autres pour être une nation. Là, c'est l'intérêt individuel qui prime. Et cette notion-là est justement le fait de la destruction. C'est, ils ont agi de telle sorte qu'il n'y a plus de raison d'être à la présence ou à la notion de nation. Et c'est la conséquence de leurs propres actes qui a amené à cette destruction. Nos maîtres disent que nous devons prendre à cœur, en cette période, la compréhension de ce que nous avons véritablement perdu. Nous avons perdu la notion de nation, nous avons perdu la notion de lien indéfectible entre Israël et sa terre, entre Israël, entre les individus entre eux, et entre Israël et la présence de Dieu. Il est dit, « Ve'anochi aster astir panai bayom ahou » En ce jour-là, je cacherai ma face. Comme si qu'il y a que la face, la présence de Dieu, est doublement cachée. Aster astir panai. De telle sorte que nous disent, Chachamim, que lorsque nous avons un objet saint, un sidour, par exemple, et que nous voulons rentrer aux toilettes, nous sommes obligés de le mettre dans une double enveloppe, keli betor keli. Ainsi que lorsque nous sommes dans l'exil, nous sommes dispersés, le temple est détruit. Alors la présence de Dieu s'est enfouie, cachée, keli betor keli, dans une enveloppe et encore une enveloppe. C'est en faisant jaillir de cette double enveloppe la présence. Alors, Akadosh Baruch Hu se dévoilera de manière parfaite, comme il est dit. Nous allons expliquer cette notion-là. En Égypte, il est dit, « Ine anochi yotze betoch Mitzrayim. » Voici Hachem dit, « Je vais sortir au milieu de l'Égypte. » Betoch Mitzrayim, Mitzrayim fait allusion à Metzarim, les deux limites qui sont Yud Zayin Betamuz et Tisha B'Av. Et Akadosh Baruch Hu va sortir au milieu de ses jours, de ses limites, pour se dévoiler. Très intéressant cette notion. Nous avons 22 jours entre Yud Zayin Betamuz et Tisha B'Av. 22 jours que multiplie 24 heures, ce qui fait 528 heures. C'est le nombre, c'est le mot Mafteah. Ces 528 heures sont les clés des deux enveloppes que nous devons ouvrir pour faire apparaître ce qu'il y a à l'intérieur. Mafteah. Nous savons qu'il y a quatre clés entre les mains d'Hachem. Que jamais Hachem ne lâche ses clés et qu'il les garde entre ses mains. Cependant, il y a, pendant ces jours-là, plusieurs jours que nous devons sanctifier, où nous ne faisons pas de deuil. Il y a le jour de Rosh Chodesh, plus les jours de Shabbat. Et de ces jours-là, on ne fait pas de deuil. Donc il y a 102 heures où il n'y a pas de deuil. C'est Rosh Chodesh et les jours de Shabbat. Ce qui fait 426. 426, c'est Tor, c'est la valeur numérique de l'intérieur. Ce Tor-là correspond au nombre de Mishnayot. Le Tor, en vérité, c'est l'intériorité de chacun d'entre nous, de notre âme. De telle sorte, nous allons voir de la manière suivante. Il y a dans 426, nous allons expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de notre espace à nous, de chaque individu. Regardons, chacun d'entre nous a un nefesh, une âme primaire, un ruach, un souffle et une neshama. Quand nous prenons les mots nefesh, ruach ou neshama, les premières lettres, qui sont le nun, le resh et le nun, valent 300. Les dernières lettres, nefesh c'est un shin, c'est 300, ruach c'est un het, c'est 308, et neshama c'est 5, ça fait 313. Nous lions les premières lettres 300 aux dernières lettres 313, ce qui fait 613. Donc le nefesh ruach neshama, l'enveloppe de nefesh ruach neshama, c'est les 613 mitzvot. Mais qu'avons-nous à l'intérieur de ces lettres? Nefesh, à l'intérieur, il y a un P, valeur numérique 80. Ruach, à l'intérieur, il y a un Vav, valeur numérique 6. Neshama, c'est Shin même, 340. Nous avons 340 plus 86, ce qui fait 426. Le 426, c'est le Tor, c'est l'intériorité qui doit jaillir de l'enveloppe. Nous devons faire jaillir l'intériorité qu'il y a en nous, cette spiritualité qui est enveloppée dans une double enveloppe, comme il est dit, « Va Anochi, Anochi, moi, c'est Hachem qui parle, Aster, Astir, Panay, je me cacherai, je me voilerai doublement dans ce monde. » Et c'est la période d'exil dans laquelle nous nous trouvons. Si nous savons faire jaillir la lumière de cet exil, c'est-à-dire comprendre que la présence divine, la providence, ne nous a jamais quittés, qu'elle est là. Le sabbat Mikelem donne l'exemple extraordinaire de l'enfant et de la maman. L'enfant a fait une bêtise. La maman se fâche contre lui et lui dit « Tu vas jouer en bas, tu ne restes pas à côté de moi à la maison. » Généralement, quand l'enfant joue dans la rue, en bas de la maison, dans le parc, la maman est à la cuisine et le regarde tout le temps par la fenêtre. L'enfant, de temps en temps, lève les yeux vers la fenêtre et observe sa mère. Elle l'observe aussi. Mais là, comme elle s'est fâchée, elle ferme le rideau et elle baisse le rideau. Donc l'enfant lève les yeux et voit le rideau fermé. Il ne voit pas sa mère. Mais que fait la maman? La maman, là, n'est pas de temps en temps en train de regarder. Elle est continuellement entre les deux barres, entre les barres du rideau, en train d'observer. Plus le Esther est fort, et plus Akadosh Baruch Hu observe avec insistance et de manière continuelle ce qui nous arrive. À l'image de cette maman qui a elle-même plus d'angoisse que son fils de l'abandonner, qu'il pense un instant qu'il est livré à lui-même. Et ça, c'est l'image de Am Israël dans cet exil terrible. Donc c'est la providence qui ne nous a jamais quittés que nous devons dévoiler, comprendre que chacun des événements, que la Emouna doit être extrêmement puissante pour faire jaillir justement cette présence en nous. Nous comprenons qu'à travers notre histoire, nous n'avons jamais, à aucun moment, été laissés livrés à nous-mêmes. Que dans les pires moments de l'histoire, la présence d'Akadosh Baruch Hu était toujours là. Nous devons aussi développer et réparer les éléments qui ont causé la destruction du temple. En particulier, comme nous disent les maîtres, la génération qui n'a pas vu le temple se reconstruire est elle-même considérée comme étant la cause de la génération dans laquelle il s'est détruit. Si vous ne faites rien pour réparer la faute des anciens, vous portez votre propre faute, mais aussi la faute des anciens. Nous sommes nous-mêmes responsables, nous sommes à l'identique de ceux qui ont fauté il y a 1948 ans. Donc nous devons réparer cela, nous devons faire des efforts suffisants pour que chacun répare. Et nous dit le Harizal, et les autres maîtres, les grands kabbalistes, que l'une des raisons pour laquelle l'exil est tellement long. Nombreux sont les maîtres qui se sont questionnés. Il y a environ 500 ans, Rabbi Haïm Vital s'est posé la question. Rabbi Pinhas à Cohen de Vilna, dans son livre Sefer HaBrit, aussi se pose la question. Et d'autres maîtres. Ils nous disent qu'en fait, la raison de la longueur de l'exil, c'est que, comme à l'image de ce qu'a expliqué le Beit Hadash dans l'accomplissement de l'étude de la Torah et des mitzvot, nous étudions, nous accomplissons la Torah et les mitzvot pour notre propre intérêt, pour savoir comment appliquer, pour être des sages, des chachamim, pour ne pas avoir, chas v'shalom, une sanction en ce monde, sur nous-mêmes, ou sur nos enfants, chas v'shalom, sur notre famille, ou bien pour avoir droit au monde futur. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense un instant accomplir la Torah et les mitzvot de manière désintéressée, uniquement pour relever la Shekhinah qui est souillée, jetée par terre? C'est ça la véritable raison. Chacune des mitzvot que nous devons accomplir, chaque fois que nous étudions la Torah, nous devons le faire avec une intention de relever la Sainte Shekhinah et de la replacer là où elle devrait être, de telle sorte que Be'ezrat Hashem, le temple soit reconstruit, que la gloire d'Hachem soit rétablie en son monde et que la délivrance vienne. La délivrance ne vient pas pour solutionner nos problèmes personnels, mais elle vient uniquement pour la gloire de la Shekhina et la gloire de Dieu. Yeratzon, que nous sachions méditer, réfléchir, approfondir les raisons de l'exil et imaginer un peu ce que nous sommes capables de faire pour le kavod d'Hachem. Et l'intention première que nous devons avoir dans chaque chose que nous entreprenons en ce monde, c'est les harbot kevod shamayim. C'est de multiplier la gloire d'Hachem. Yeratzon qu'Akadosh Baruch Hu nous illumine, qu'il fasse jaillir son nom, sa lumière, de ce toch, shebetoch, betocho, dans cette double enveloppe dans laquelle nous avons enveloppé la Shekhinah, afin qu'il illumine nos voies et que la délivrance arrive. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.